Aïe, 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 pris en flagrant délit de parler de travers sur les micros. Aïe. Bon, je vais prendre mon ton doctoral et docte. Attention. On y va ? On y va. Tu as coupé tout ça, non ? Non, bah, alors je continue. Bon, je vais d'abord célébrer une date particulière qui sera la semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine, l'humanité comptera 8 milliards de membres. Il y aura, donc, dans quelques jours, 8 milliards d'habitants sur la planète. Bon, c'est pas tout à fait rien. Et vous ne pouvez pas imaginer, si jamais vous ne l'avez pas regardé, la courbe de croissance de l'humanité. Mais il n'y a pas si longtemps, on était 2 milliards. Il y a moins d'un siècle. Donc on est dans une phase d'ascension extrêmement rapide qui nécessairement, et je ne suis pas malthusien du tout, pose des problèmes. C'est-à-dire que le rapport entre cette même planète avec ses mêmes cours d'eau, ses mêmes océans, ses mêmes systèmes nuageux, ses mêmes terres agricoles, quand on est 2 milliards et 8, il faut le gérer différemment. C'est-à-dire que tout ça va dans le sens d'une gestion collective par l'humanité de son bien collectif qui est la planète, mais on est encore loin d'une gestion sérieuse et surtout égalitaire. C'est-à-dire que la tendance qu'on observe en permanence, c'est ceux qui sont plus forts disent « je sais qu'il n'y a pas beaucoup de terres agricoles, mais elles sont à moi, je les prends, et celui qui ne vient pas, je le tue ». Donc c'est de ça qu'il faut sortir. C'est ce qu'on appelle la phase impérialisme. Bon, on y est en plein. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je m'arrête sur ce chiffre de 8 milliards qui était attendu. Et la courbe va encore monter, encore qu'il y ait des phénomènes de vieillissement visibles dans pas mal d'endroits, y compris si on vous dit « Ah, les Chinois se mettent à vieillir ». Mais c'est normal de vieillir. Et puis ils n'allaient pas sans arrêt avoir la moitié de la population qui avait moins de 15 ans. Ils n'en seraient jamais sortis. Ils n'auraient pas pu les nourrir. Il faut bien se rendre compte, je parle un petit peu de la Chine à cette occasion, que quand le gouvernement chinois a dit « il ne faut pas qu'il y ait plus d'un enfant par famille », c'était une décision politique très douloureuse, difficile. Mais ils en étaient à regarder les courbes. Ils disaient « mais si ça continue à monter comme ça, on ne pourra pas leur donner à manger ». Et ça, on ne veut pas. On veut leur donner à manger, nous, pas en allant mendier du blé à l'Arkansas ou ici ou là. Hein. Donc, et bon, heureusement, ils sont sortis de cette période-là. Ils ont réouvert la facilité d'avoir plusieurs enfants. Alors, je rappelle aussi, puisqu'il faut le dire, qu'ils n'avaient pas limité le nombre d'enfants dans les populations minoritaires. Les Ouïghours, par exemple, puisqu'on nous rabâche toujours des choses sur les Ouïghours ont pu faire autant d'enfants qu'ils en ont voulu. Bon, ça, c'est pas de la dictature chinoise. Hein. Ils étaient au contraire les seuls à être libres d'avoir plusieurs enfants. Bon. J'arrête là-dessus. Mais je voulais marquer cette date parce que je dis ce chiffre symbolique, parce qu'on sera bientôt 9, il n'y a pas de souci, ça ne s'arrête pas. La démographie, c'est une science lente, c'est-à-dire que quand les mouvements sont lancés, on ne les inverse pas du jour au lendemain. Et la tentative chinoise, unique dans l'histoire de l'humanité, elle a quand même ralenti, mais pas tant. Ils ont quand même gagné encore au moins 200 millions d'habitants depuis. Ce qui n'est pas rien, hein, à l'échelle, mettez-vous à l'échelle de la France. Donc le rapport entre l'humanité et la planète est entré dans une phase difficile qui nécessite que toutes les intelligences de la planète participent au travail et pas que ce soit simplement les plus gros, les mieux armés qui disent « tout ça est à moi, vous aurez des miettes ». Ça devient insupportable comme discours. Voilà. Je le dis, je ne le supporte pas et je pense que je ne suis pas le seul.
Non.
Et certains animaux, ils disparaissent aussi.
Bien sûr, ben parce qu'on leur prend la place. Et oui, et bien sûr, il y avait des animaux qui vivaient tranquilles au fin fond de l'Amazonie. Et quand l'Amazonie brûle, ils disparaissent. Voilà.
Exact.
Bon, tout ça est dit. Bon, mais loin de ces grandes considérations, je vais aller à des considérations à la limite plus amusantes. Alors, je commence par la limite amusante. Vous savez qu'il y a un sommet, là, qui s'appelle la COP, je ne sais plus laquelle, c'est la 27. C'est la 27e COP, dont tous les observateurs, alors je ne vais pas vous parler plus de la COP 27, parce que tous les observateurs s'accordent à dire, déjà la 26 n'a pas été respectée, la 25 non plus, donc on va vous en parler beaucoup, ça ne fera probablement pas grand-chose. Mais c'est quand même l'occasion d'un grand rassemblement de grands responsables. Et je m'arrête juste sur une petite anecdote. Monsieur Emmanuel Macron s'est trouvé à rencontrer monsieur Nicolas Maduro, président du Venezuela, comme vous le savez. Alors il se trouve, et là, c'est pour ça que je m'amuse de l'information, parce que monsieur Macron, qui n'a pas de mémoire ou qui n'a pas de figure, on dirait, est allé pratiquement se jeter sur lui en disant « Comment ça va chez vous ?» Alors, effectivement, il n'a pas pu le prendre dans ses bras ni le caresser comme il a l'habitude de faire, c'est comme il fait avec Zelensky, parce que regardez les photos de M. Maduro, je n'ai pas regardé ses mensurations, mais Maduro fait entre 1m95 et 2m et le poids à proportion. Et donc, Macron avait l'air d'un freluqué, hein, et donc il ne pouvait pas serrer Maduro dans ses bras. C'était impossible, il ne pouvait pas faire le tour de Maduro. Voilà. Donc ça n'a pas eu lieu, mais Macron que rien n'arrête, lui a dit « Comment ça va ?» Il a oublié qu'il avait boycotté, qu'il avait dit du mal de lui, etc., qu'il avait souhaité la disparition de son gouvernement, tout ça. Non, ça passe, ça glisse, etc. Bon, et j'en termine avec ce petit épisode. C'est une nouvelle scénette théâtrale du président Emmanuel. Bien. Il y a plus inquiétant et plus important. Je voulais parler un petit peu et rapidement quand même de l'attentat contre l'ex-premier ministre du Pakistan.
Ah, c'est intéressant.
Alors, l'ex-premier ministre du Pakistan, on le sait, a été débarqué donc au printemps par une espèce de coup d'État parlementaire fomenté par l'armée pakistanaise et avec derrière, c'est connu, c'est écrit, j'invente rien, les services secrets des États-Unis. Pourquoi ? Parce que l'armée pakistanaise a tellement trempé, enfin tellement travaillé, tellement collaboré avec l'armée des États-Unis qu'ils se connaissent tous très très bien. Et donc, effectivement, les consignes des États-Unis passent assez vite dans l'armée pakistanaise. Et comme M. Imran Khan avait le mauvais goût de dire « Il faudrait quand même qu'on soit un peu plus autonome par rapport aux États-Unis, et si je veux aller rencontrer le président russe, on n'a pas de raison de me faire les gros yeux à Washington. Je fais ce que je veux. Je suis un pays souverain. J'ai 220 millions d'habitants à gouverner. J'ai la bombe atomique, etc. Donc je n'accepte pas qu'on me dicte ma conduite. » Ça n'a pas plu du tout. Alors ça n'a pas plu du tout à Washington. Par contre, ça a beaucoup plu chez les Pakistanais. Et ce qui se passe, donc, depuis que M. Imran Khan a été mis à la porte par ce coup d'État parlementaire, on a inventé d'abord qu'il y aurait de nouvelles élections, puis finalement elles ont été annulées, il y a un bricolage avec la Cour suprême. Je ne rentre pas dans les détails. On l'a chassé du pouvoir sous diction des décisions des États-Unis. Bon. Mais depuis ce moment-là, donc c'était en avril, si ma mémoire ne me trompe pas, Il y a des manifestations de masse partout au Pakistan en soutien de M. Imran Khan.
Imran Khan.
Voilà, parce qu'effectivement, la population pakistanaise, au moins une bonne partie de cette population, a estimé qu'elle avait là un dirigeant de qualité qui tenait à faire respecter la souveraineté du Pakistan. Et donc c'est ça qui est mal accepté. C'est tellement mal accepté que M. Imran Khan, c'est la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, a été victime d'un attentat qui, par chance, n'a pas été mortel, mais il aurait pu l'être. Il aurait pu l'être. Hein, donc il a pris les balles sont arrivées dans ses jambes, je crois.
Oui. Hein,
et on l'a vu ensuite sur un fauteuil roulant. Voilà. Bon, donc, mais il était bien... Enfin, je pense qu'il était prévu qu'il allait y laisser la vie. Alors il faut savoir qu'au Pakistan, c'est les choses qui arrivent, puisque un des prédécesseurs de M. Imran Khan, qui était Mme Benazir Bhutto, est morte exactement dans le même genre même genre de circonstances.
Exact,
donc il l'a échappé belle, mais effectivement, ça n'a pas du tout impressionné ses soutiens, bien au contraire, qui disent « Ah, voyez où ils en sont, le camp d'en face, qui soi-disant a la légalité parlementaire, ils veulent liquider M. Imran Khan ». Et donc là, ça va se tendre autour de cette question-là. Mais je pense que l'affaire n'est pas finie et que, comme des élections programmées pour l'année prochaine auront lieu, je pense qu'il pourra défendre ses chances. Et c'est ça que l'opposition, enfin ceux qui ont essayé de le tuer, voulaient éviter, c'est qu'il se représente, parce que je pense que s'il se représente l'année prochaine, il est quasiment sûr d'être réélu. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas.
Il faut qu'il fasse attention à lui.
Voilà,
et ce qui est embêtant dans cette histoire, c'est l'armée pakistanaise.
Alors, pour une part, elle suit les injonctions des États-Unis, c'est tout à fait clair, parce qu'elle est formée aux États-Unis, elle a des équipements militaires états-uniens, etc. Mais c'est peut-être pas tous les niveaux de l'armée, et c'est peut-être pas tous les généraux. Il y a peut-être lui doit le savoir mieux que nous, mais c'est pas évident que toute l'armée fasse bloc contre lui. Et puis, une armée à qui on dit « il faut faire respecter votre souveraineté », c'est un langage qu'elle peut entendre, dire « effectivement, on est l'armée du Pakistan, on n'est pas une extension de l'armée des États-Unis ». Donc je ne suis pas sûr que toute l'armée marche. Ce qui est certain, qu'il y a eu assez de gens haut placés dans l'état-major au mois d'avril pour monter l'opération parlementaire, ce n'est pas sûr que ça puisse encore continuer. On en reparlera certainement. Je reste. Non, je vais revenir là un peu à Washington, à New York pour parler de l'ONU. Parce qu'il y a eu ces derniers jours une série de votes de l'Assemblée générale qui méritent tous, l'un après l'autre, d'être commentés. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je les prends. Je vais commencer par. Alors, je ne vais pas commencer par celui de Cuba, puisqu'on en reparlera un peu plus demain. Je vais commencer par celui concernant le nazisme. Donc, il y a une motion qui est présentée, donc résolution qui est présentée par la Russie, hein, et qui dit, qui demande à ce que le nazisme soit condamné. Bon. Et qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors, ce n'est pas la première fois que la Russie présente cette motion-là. Elle a bien raison de le faire, parce que je rappelle que le nazisme lui a valu à cette Russie, plus exactement à l'URSS de l'époque, 27 ou 28 millions de morts.
Oui.
Hein, c'est les nazis qui l'ont fait, soit par des morts civiles, une majorité, des morts militaires, ou des morts de faim, ou des morts d'accident. Enfin, tout ça fait partie du bilan du nazisme. Hein, on a tendance à l'oublier, parce que dans d'autres pays où les nazis ont fait pas grand-chose, beaucoup moins de mal, on a tendance à oublier ce que c'était réellement. Je rappelle que le nazisme était un régime ségrégatif qui considérait qu'il y avait une race supérieure et que toute une série d'autres races étaient des inférieures, en anglais « Untermenschen », et que dans ces races inférieures, il y avait les juifs. Alors ça, ça reste connu. Il y avait les slaves, il y avait les tziganes. Alors les slaves, ça va des Polonais jusqu'aux Sibériens. Il y a beaucoup de gens chez les Slaves, beaucoup de monde, hein, les Polonais, les Bulgares, etc.
En Russie, il y a une vingtaine de millions.
Hein. Voilà. Bon, tout ça. Donc, ce régime raciste, le régime nazi.
Et les Noirs.
Voilà, même chose. Et voilà. Donc, effectivement, bien, il y a une race supérieure et des races inférieures. Alors que la Russie, que l'URSS ait cette mémoire-là, tant mieux, et c'est bien qu'elle le fasse. Or, il se trouve que les autres années, et là qu'il y a un changement sur lequel je veux insister, les autres années, c'était les États-Unis et Israël qui votaient contre, en général. Bon, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et les pays de l'Union européenne, jusqu'à cette année, j'insiste et je souligne, s'abstenaient. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même un peu embarrassés. Je vois le représentant, par exemple, de la Pologne disant que le nazisme, ça fait rien. Ça doit être un peu difficile à exprimer, à avaler. Hein. Bon. Mais pour l'instant, ils en étaient restés à l'abstention. Ce que je considère comme tout à fait grave, c'est que cette année, la totalité des pays de l'Union européenne ont voté contre. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que le nazisme, c'était pas grave. Ça, c'est très, très grave.
C'est très, très grave.
Ça n'était jamais arrivé. Donc maintenant, vous pouvez voir, si vous rencontrez dans vos pérégrinations ou en allant faire vos courses un diplomate français, vous pouvez lui dire, monsieur, vous avez voté pour le nazisme. Alors bravo, hein, mais je ne vous touche pas la main, hein, et je ne vous embrasse pas, hein, et je ne voterai pas pour vous, hein, parce que vous êtes pour le nazisme. Ce n'est pas possible. Hein. Alors vous allez faire le joli cœur, vous allez aller à une cérémonie sur l'Holocauste et tout. Ça ne trompe plus maintenant. Vous êtes pour le nazisme, vous approuvez l'Holocauste, vous approuvez la déportation, vous approuvez Chateaubriand, vous approuvez Oradour-sur-Glane et tout ça, vous approuvez l'assassinat de Guy Môquet. Ah bon, bravo, ben vous êtes très bien. Mais je ne veux plus vous parler. Hein. J'en suis là. Mais je parle à la radio, ça vous apprendra. Bien, ça c'était le premier vote à l'Assemblée générale de l'ONU. Le deuxième sur lequel je voulais m'arrêter, c'était un vote concernant l'armement nucléaire de Israël. Alors là, il y a une série. Alors je crois que c'est l'Égypte qui avait déposé le projet de résolution, et où il demandait, comme ce n'est pas la première fois que les pays du Moyen-Orient demandent à Israël d'arrêter l'arme atomique, et il demandait.
Se faire contrôler.
Voilà. Et bien entendu, Israël a voté contre. Et Israël s'est défendu en disant « Non, on n'a pas signé le traité de non-prolifération. » Mais ils ont ajouté, et là, ils n'ont pas tort, et c'est la faiblesse du camp des nucléaires, c'est-à-dire ils ont ajouté « Vous savez, les gens qui ont signé le traité de non-prolifération, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment la bombe atomique et qui ne veulent pas qu'elle s'étende, ils ont aussi signé un papier dans ce même traité. Il est dit que chacun d'entre eux fait un effort pour diminuer son armement nucléaire. » Et Israël a beau jeu de dire, on a beau se renseigner, apparemment, il n'y a pas de diminution des arsenaux nucléaires. Donc pourquoi nous, on ferait un geste ? Bon. Voilà. Et donc le débat ne va pas plus loin, mais ce que je voulais souligner, c'est donc que cette résolution n'est pas passée, Israël n'a pas été condamné, mais il a été convenu, et je m'arrête là-dessus parce que ça mérite un éclairage historique, il a été convenu que l'Agence internationale pour l'énergie atomique, toujours elle, allait allait venir visiter les instants. Ah non, je mélange avec autre chose. Excusez-moi. Non. Donc, on en est là de cette histoire. Donc, tout Israël est content de ce qu'il fait. Si, ce que je voulais dire pour Israël, c'est qu'un jour, l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé à Israël qu'il allait faire une inspection dans son site atomique, qui est dans le désert du Negev, dans une ville qui s'appelle Dimona. Bon. Alors, bien entendu, on est bien élevé, on est grande agence internationale, on prévient, on va venir dans quelques jours avec armes et bagages, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à Dimona ? Je m'arrête là-dessus parce que c'est très intéressant pour la suite des événements. Qu'est-ce qui s'est passé à Dimona ? Eh bien, à Dimona, les Israéliens qui sont finaux s'étaient dit, on a une partie de recherche nucléaire comme ça, civile, tranquille, etc., où on fait des expériences. Et puis, ils avaient construit un sous-sol où ils faisaient l'enrichissement de l'uranium pour faire des bombes. Bon. Alors c'était dans le sous-sol, donc il s'est dit, on fait deux niveaux séparés, parce que comme ça, il y a des gens même au premier étage qui peuvent dire qu'il faut un travail civil de recherche sur les radioactivités, etc. Ça va. Hein. Et la partie bombe, elle était cachée, donc ne devait y aller qu'un certain nombre de fidèles qui se gardaient bien d'en parler. Le jour où l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé sa visite à Dimona, qu'est-ce qu'ont fait les Israéliens ? Ils ont détruit l'ascenseur qui allait au sous-sol, ils ont muré, ils ont repassé un revêtement sur le sol, et l'inspection est venue, est restée au rez-de-chaussée au premier étage, et n'a rien vu de l'installation pour l'enrichissement de l'uranium à titre nucléaire, à titre militaire. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça qu'il faut savoir sur la façon qu'on a de respecter les lois internationales, surtout quand on a affaire à une... Alors, je ne méprise pas l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est bien qu'elle y soit, mais elle est tellement... bridée par des considérations de respect des États, de respect de la souveraineté et tout, qu'elle ne fait pas beaucoup de surprises à personne. Hein. À telle enseigne, et c'est là que je voulais revenir, mais je faisais un raccourci trop rapide, que vous savez qu'il y a de ça, donc quelques semaines maintenant, l'état-major russe et la diplomatie russe a dit « Attention, l'Ukraine est en train de préparer une bombe sale ». Ouais. Je vous avais expliqué la technique, bon, j'y reviens pas. Et ils avaient, non seulement ils avaient annoncé ça, mais ils avaient listé trois endroits où le gouvernement ukrainien préparait les éléments pour la bombe sale. Bon. Et donc ils avaient communiqué ces endroits à l'ONU, ils avaient communiqué au gouvernement des États-Unis, etc. Et donc l'AIEA a fait une inspection sur ces sites. Mais même chose, et c'est pour ça que je reprends l'exemple de Dimona, l'AIEA a très poliment dit, écrit à M. Zelensky, voilà, vous avez été accusé de préparer une bombe sale, j'ai de la peine à le croire, etc. etc. Je projette de venir d'envoyer une mission d'inspection tel jour. Bon, évidemment que... Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là ? Il n'y avait plus rien. Bon, bien sûr, hein, il n'y a pas eu d'effet de surprise. Donc tout ça ne démontre rien du tout, si ce n'est qu'il est très difficile, quand on est une organisation internationale qui se veut respectable, qui ne veut pas montrer des signes de mépris pour un gouvernement souverain, ben, effectivement, on peut se faire rouler dans la farine. Alors, j'en sais rien dans ce cas-là, mais maintenant, le secrétaire des Nations Unies dit, vous voyez, ils n'ont rien trouvé. Oui, ils n'ont rien trouvé. Enfin, ils n'ont pas fait peur à grand monde, peut-être. Hein.
Oui. Mais il y a énormément de laboratoires en Ukraine.
Oui, en plus, ils ont simplement déplacé les produits à un autre endroit. Ouais. Hein. Là, parce que l'état-major russe avait donné une liste de trois endroits très précis avec le nom de la ville et tout. Bon. Ils sont allés là, parce que c'est ça qu'on leur avait dit de faire. Si ça a été déménagé, ça a été déménagé. C'est tout. Hein. Bon, c'était pour donner les limites de l'ONU. Oui. Et le troisième vote à l'ONU concernait, et ça me permet de parler de l'émission de demain, l'embargo à Cuba. Alors l'embargo à Cuba, alors vous en entendrez parler savamment demain par notre invité Victor Dédage, donc qui est un journaliste, un animateur du site Le Grand Soir, qui connaît bien Cuba, qui y a vécu un certain temps, qui a écrit plusieurs livres, dont un qui vient de sortir donc en 2020 sur l'embargo à Cuba. Et ce livre a cette caractéristique, et il mérite d'être lu, parce que d'abord il est facile à lire, mais qu'il est allé non pas expliquer depuis ici ou depuis l'Occident ce que c'était que l'embargo, mais comment le vivaient les Cubains sur place, Cubains et Cubaines. Hein, alors, avec différents... Qu'est-ce que c'est pour un paysan ? Qu'est-ce que c'est pour un médecin ? Qu'est-ce que c'est que... Voilà, pour des gens qui vivent, qui disent, voilà ce qu'a fait sur ma vie à moi, sur mon secteur d'activité, voilà ce qu'a fait l'embargo. Par exemple, un médecin qui dit, ben voilà, j'avais des gens à soigner, mais je ne pouvais pas faire venir tel médicament parce qu'il était produit par un laboratoire américain et que, bien entendu, l'embargo interdisait que je puisse acheter ce médicament. Bon, alors, le livre est très facile à lire, très intéressant. Il s'appelle « Cuba sous embargo ». Et donc, il est venu en parler à Marseille. Et donc, demain soir, vous entendrez la quintessence de son discours, qui est appuyé donc sur cette connaissance réelle de Cuba, et puis qui ouvre des perspectives sur les actions possibles contre l'embargo, parce que ce qu'il explique, et je ne vais pas déflorer sa conférence, mais ce qu'il explique, c'est que l'embargo fait souffrir les Cubains, mais il empêche aussi la solidarité avec les Cubains. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait voulu fournir le médicament qui manquait à Cuba pour soigner telle ou telle pathologie ne pouvait pas être fournie parce que le laboratoire qui aurait fourni ce médicament aurait été soumis à des sanctions financières énormes des États-Unis. Bon. L'exemple qu'il cite et qui était connu, mais pour donner l'échelle, c'est pas simplement on vous fait les gros yeux et puis on vous dit recommencez pas. Non, non, la Banque nationale de Paris, BNP française, pour avoir donc transféré de l'argent à Cuba, a payé une amende de 8 milliards de dollars. Bon, alors il explique, après vous aurez la réponse demain soir, il explique ensuite pourquoi ils ont payé les 8 milliards de dollars. Et il explique aussi, je souligne, que le gouvernement français n'a rien fait pour défendre sa banque, elle ou une autre. C'est-à-dire que le gouvernement français laisse le gouvernement des États-Unis taxer les entreprises françaises et laisse faire. Tout ça nous ramène à la question du vote de l'Assemblée générale, puisque donc c'était la semaine dernière. Le jour même où nous tenions à Marseille cette conférence avec Victor Denage, l'ONU... une nouvelle fois délibéré sur la levée de l'embargo. Alors, c'est une vieille demande, c'est la 30e fois, ça fait 30 ans que le Cuba demande la levée de l'embargo, et ça fait 30 ans que l'Assemblée générale des Nations Unies, à la majorité, vote pour. Alors, la majorité s'est amplifiée au fil des années. On arrive maintenant au résultat qui a été celui de la semaine dernière, donc qui est très, très caractéristique. Vote contre la levée de l'embargo. Les États-Unis, puisque c'est eux qui l'ont décidé. Israël, qui est le petit toutou qui suit de toute façon. Et puis, il s'est ajouté à ça deux abstentions très révélatrices. L'abstention du Brésil, présidée par M. Bolsonaro. Alors on peut espérer qu'à la prochaine session, en octobre 2023, si Lula, comme Lula sera président, cette fois le Brésil sera dans le bon camp. Hein. Mais il s'est ajouté aussi le vote, l'abstention de M. Zelensky de l'Ukraine. Hein. Donc l'abstention de deux dirigeants fascistes. Eux, ils sont pour l'embargo. C'est clair. Enfin, ils sont pour. Ils n'ont pas voté pour. Ils se sont abstenus.
Ils ont suivi les Américains.
Voilà, ils ont obéi. Ils ont, ouais, obéi,
ils ont, obéi, aux ils ont obéi aux
Américains. Ouais. Américains. Voilà. Alors, le Brésil n'était pas obligé, mais Bolsonaro a dû tenir à faire ça. Bon, voilà. Donc, je voulais donc présenter à cette occasion donc, l'émission de demain soir. Le livre de Victor Dedage, D-E-D-A-J, se trouve dans les bonnes bibliothèques. Il est facile à lire et il explique beaucoup de choses.
Aux éditions d'Elga.
Voilà, aux éditions d'Elga. Il est à la bibliothèque de l'Alcazar, je dis ça pour les Marseillais. Hein, c'est une bonne chose. Et donc, le thème de ce discours, c'était qu'est-ce qui se passe chez les Cubains et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous. Et c'est là que Victor Dedage introduit une dimension très intéressante. Nous, les entreprises françaises subissent des pénalités imposées par le gouvernement des États-Unis au nom de l'extraterritorialité. Alors c'est un concept sur lequel il s'arrête, sur lequel je dis deux mots, c'est-à-dire qu'il y a une législation qui est votée par le Congrès des États-Unis et qui s'applique dans d'autres pays. Alors que si vous décidez, alors à la limite, ça se fait couramment pour l'Europe, l'Europe prend une décision sur un domaine, c'est le Parlement français qui la valide pour la faire appliquer sur le territoire de la République française.
C'est une directive européenne.
Voilà, ça devient. Et on l'applique, et quelquefois on fait des retouches où on a des conditions d'application plus ou moins strictes. Mais bon, il reste encore un Parlement français. Là, vous avez une décision prise à Washington par le Congrès qui s'applique à n'importe qui partout dans le monde. Bon. C'est donc un phénomène monstrueux, proprement monstrueux en termes juridiques, et sur lequel il donne beaucoup d'explications. Voilà. Donc je vous renvoie à la démission de demain soir à 20h, où vous entendrez Victor Dedage dans ses œuvres et ses pompes, j'allais dire. Voilà.
Hein, écoutez, c'est passionnant.
C'est passionnant. Voilà. Bien. Ça, c'était donc pour parler de Cuba. Et je reste... attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire sur Cuba ? Non, pas, oui, j'étais aux États-Unis. Voilà le lien. Je reste aux États-Unis puisqu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, au moment où nous parlons, s'achève, non, continue, puisque c'est la journée, les élections qu'on appelle le mid-term, les élections intermédiaires aux États-Unis. Alors c'est aujourd'hui que ça s'achève, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont déjà voté il y a un mois, parce que le vote par correspondance est bien organisé. Alors c'est pas un mois dans tous les États, mais il y a des endroits où le vote est déjà acquis depuis longtemps, les votes par correspondance et tout. Là, aujourd'hui, c'est les gens qui se déplacent pour aller au bureau de vote qui votent. C'est-à-dire, pas le solde, mais on considère qu'il y a déjà au moins 30% des Américains qui ont déjà voté. Pourquoi ils votent ? Là, je m'arrête parce qu'on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout parce qu'ils votent d'abord pour renouveler un tiers du Sénat. Alors, le Sénat, c'est 100 personnes. Je crois qu'il y a 35 sièges de sénateurs qui sont à renouveler. Bon. Il faut savoir, l'enjeu politique n'est pas nul, puisqu'aujourd'hui, il y a 50 républicains et 50 démocrates dans les 100 sénateurs du Sénat. Et que pour avoir une majorité, il faut que Mme Kamala Harris, vice-présidente, vote avec les démocrates. Sinon, c'est 50-50 et il ne se passe rien. Il se passe d'autant moins de choses que les grandes décisions que peut prendre le Sénat doivent se prendre à la majorité qualifiée des deux tiers. Donc de toute façon, les démocrates ne peuvent pas faire grand-chose. Et si jamais, ce soir, ils ont perdu la majorité, ne fût-ce que d'un siège, même Kamala Harris ne les sauvera pas. Donc ça, c'est une grosse difficulté, parce que sans Sénat, le président est un peu, j'allais dire, à bout de... Enfin, il est dans les difficultés, il ne peut pas faire voter grand-chose. Bon. Deuxième vote important, celui de la Chambre des représentants. Alors, la Chambre des représentants, et c'est là qu'on arrive à une espèce d'abus. Moi, j'ose dire le mot, une espèce d'abus démocratique. C'est-à-dire, voter, élire un Parlement, c'est un morceau du Parlement, la Chambre des représentants, tous les deux ans, ça veut dire que la campagne électorale n'arrête jamais aux États-Unis. Ouais. Les États-Unis sont toujours en campagne électorale. Et donc là, les démocrates ont pour l'instant une dizaine de sièges d'avance sur les républicains, mais c'est pas énorme. Ça peut basculer vite, puisqu'il suffit qu'il y ait une majorité dans un État qui bouge, etc. Donc c'est pas du tout assuré. Et je le dis d'autant plus, et sans vraiment parti pris, que beaucoup d'observateurs de la situation politique états-unienne disent qu'effectivement, le risque de basculement de la majorité du Congrès est réel. Ouais. Alors, il y en a qui frémissent en disant « c'est les républicains qui vont prendre la majorité ». Oui, mais ils vont prendre la majorité avec un président démocrate, donc le président démocrate, en gros, sera paralysé. Alors, vous allez dire, vu l'état dans lequel il est, oui, la paralysie est déjà acquise. Bon. Ouais, mais la paralysie politique, je voulais dire. Pauvre monsieur Biden, dans l'état où il est, on lui souhaite une retraite heureuse, mais... C'est pas, on n'y est pas. Non, mais bon, je veux la.
Enfin, moi, je la souhaite à d'autres.
Hein. Ah oui, non, mais je veux la mort de personne. Je veux dire. Bon. Voilà. Bon, on met ça aux voix, c'est tout de suite. Ouais. Bon, mais ça c'est la façon dont on vous enveloppe le sujet en disant risque de perte de majorité et risque. Alors là, les cheveux se dressent sur les têtes. Arrivée d'une majorité trumpiste. Alors, ouais. Trumpiste, probablement un peu, parce que Trump, qui n'a pas perdu son temps depuis qu'il est parti de la Maison-Blanche, a beaucoup de poids dans l'appareil du Parti républicain, et un grand nombre des candidats qui ont été retenus ou pour le Sénat ou pour les représentants sont des républicains trumpistes. C'est-à-dire qu'une majorité républicaine au Parlement, au Congrès, à Washington, c'est une majorité qui aura une tendance trumpiste. Alors ça commence à inquiéter. Mais on verra ce soir.
Ils ignoreront Trump.
Alors après, la suite, c'est dire si effectivement il y a une majorité trumpiste au Congrès ce soir, ou demain quand on aura les résultats définitifs, Trump sera en position extraordinairement forte pour aller voir les dirigeants du Parti républicain en disant « Écoutez, hein, je suis l'homme de la situation, donc il faut me représenter dans deux ans. » Et je ne vois pas ce qu'ils pourront dire. D'autant plus que, et je rappelle, parce que je n'ai pas dit, mais il faut le rappeler, que dans tout ça, il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors les chiffres ont circulé, je ne les ai pas notés, mais la campagne électorale, d'un côté comme de l'autre, a coûté des dizaines de milliards de dollars, et qu'aux États-Unis, on ne peut pas faire campagne si on n'a pas de l'argent. Alors, soit on l'a soi-même, soit on l'emprunte, on se fait sponsoriser par tel ou tel, mais après, il faut rembourser. J'explique. J'explique. Vous êtes dans un comté ou un État où il y a une usine d'armement, Lockheed, je donne un nom au hasard. Bon. Vous êtes un jeune parlementaire démocrate, vous avez été élu localement et tout, vous voulez aller à Washington, vous avez des capacités pour le débat, d'analyse, etc. Mais vous n'avez pas le milliard ou les 500 millions de dollars qu'il faut pour faire la campagne, télévisée, porte à porte, etc., tout ce qu'il faut. Bon. Vous allez voir Loukid, qui va dire, si vous avez besoin d'argent, passez à la maison. Bon, Loukid va mettre de l'argent. Mais après, quand vous aurez été élu, Loukid va vous dire, maintenant, il faut rembourser. Hein. Donc, il faudra voter pour les crédits Loukid, les crédits d'armement, quand tu seras à Washington. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Il ne faut pas se le cacher. C'est le fonctionnement avec de l'argent. Alors ça, c'est pour donner le niveau Washington. Mais en même temps, donc ce même jour et ces jours précédents pour ceux qui votent par correspondance, il y a aussi les élections d'une série de gouverneurs. Je crois qu'il y a 35 gouverneurs qui sont renouvelables. Un gouverneur dans son État, il a du pouvoir. Il y a aussi les élections des départements, des chefs du département d'État. Dans chaque État des États-Unis, ce n'est pas M. Blinken, il y a un chef du département, un département d'État, une espèce de chef du protocole, chef qui s'occupe en particulier de l'organisation des élections dans l'État fédéré. Bon, tout ça est très bien. Et puis il y a des endroits où on ajoute l'élection du shérif de ceci, l'élection du shérif de cela. Et il y a même des endroits où on ajoute des États où on ajoute des référendums sur des sujets qui touchent la population. Bon, il y a des électeurs des États-Unis qui ont une cinquantaine de cases à remplir sur leur bulletin de vote. Hein, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils arrivent à s'y retrouver? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire? On a une démocratie assez bizarre. C'est, vous avez le droit de vote, tout le monde ne l'a pas. Bon, les prisonniers ne l'ont pas ou l'ont pas du tout. Ou on hésite à leur redonner quand ils sortent de prison. Mais vous avez un droit de vote et vous êtes devant une confusion extrême avec en plus un choix d'une pauvreté exemplaire. C'est-à-dire que vous avez le choix entre les rouges et les bleus. C'est tout. Hein, c'est tout. Alors les rouges... Plein d'œil. Encore. Les rouges, c'est les républicains. Ça, c'est la couleur traditionnelle. Les bleus, c'est les démocrates. Alors, les républicains ne sont pas très, très rouges au sens où on l'entend chez nous. Mais vous n'avez que ça à vous mettre sous la dent. Alors, après que sur un référendum d'État, vous ayez une opinion particulière, tant mieux. Mais voilà un système qui est très compliqué, où on vote tout le temps, où l'argent occupe une place importante. Je voulais simplement pas le dire. Ils l'ont choisi. Bon, ils l'ont choisi, c'est comme ça, qu'ils vivent avec. Mais les gens qui nous font rêver sur la démocratie des États-Unis oublient toujours ces dimensions du pouvoir de l'argent, du pouvoir des lobbies, et de toutes ces... Et puis la pauvreté des choix politiques. Et il y a eu des tentatives de troisième candidature, de troisième parti. Ils n'arrivent jamais, parce qu'ils sont cassés par le manque de dollars, etc. Bon. J'en parle pas plus, on fera quand même, on y fera écho la semaine prochaine quand on aura les résultats, mais c'est très très intéressant. D'autant plus que ça a des conséquences presque immédiates. Vous avez tous entendu parler de M. Elon Musk. Hein. Alors M. Elon Musk, il est connu parce qu'il fait des voitures électriques, hein. Il en vend. Alors il paraît qu'il en vend beaucoup en Chine, mais je pense que ça n'a pas duré puisque les Chinois font ça très très bien maintenant et que les Chinois sont devenus les premiers exportateurs mondiaux de voitures électriques. Donc M. Elon Musk est peut-être content d'en vendre en Chine, mais il n'en vendra pas très longtemps à mon avis. Mais M. Elon Musk était depuis des semaines, ou ça remonte peut-être à plusieurs mois, en pourparlers pour racheter Twitter. Bon. Une affaire de plusieurs milliards de dollars aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par racheter. Alors ça a mis longtemps. Il y a toute une série de péripéties sur lesquelles je ne m'arrête pas. Mais ce qu'il a fait, c'est que depuis qu'il est arrivé, donc depuis qu'il a le pouvoir, mais c'est une affaire de quelques jours, il a licencié la moitié du personnel de Twitter. En gros, 2500 personnes sur la totalité. Et on découvre à cette occasion, d'une part, bon, ça, on est tout à fait dans la politique des États-Unis, hein, il y a trop de monde, on vire, hein, il n'y a pas de souci, you're fired, ils disent, hein, vous êtes viré, comme ils disent en américain, c'est tout. Bon. Mais on découvre à cette occasion ce que faisaient les 2500 qui ont été mis à la porte, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et alors il y avait un contrôle de l'information très très pointu. Il y avait des commissions sur les droits de l'homme, des commissions sur ça, etc. Et c'est tout ce personnel qui était un personnel de censure. Alors on va vous dire, c'est pour éviter les fake news, c'est pour éviter... Il y avait un personnel de censure, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire n'importe quoi sur Twitter, hein, parce qu'on risquait d'être privé de Twitter. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Elon Musk est en train de revoir la stratégie, c'est-à-dire il va éliminer tous ses freins pour dire « c'est un endroit où on peut bavarder gentiment entre soi ». Il a en plus une concurrence de TikTok qui l'embête, hein, mais ça il ne le dit pas trop, mais c'est vrai que ça l'embête. Mais surtout, M. Elon Musk est confronté à un grave débat moral et politique, c'est-à-dire que Twitter, il y a de ça 2 ans, pas tout à fait, mais aussi 2 ans, a supprimé, a fermé d'autorité le compte Twitter de M. Donald Trump. Ah, au nom de, justement, du contrôle de l'opinion, hein, etc., etc. Bon, et qu'est-ce qu'il voit, M. Elon Musk? il voit arriver Trump dans son champ de vision, ouais, et il se dit oulala, je vais dire que je censure plus. Mmh. Hein, parce qu'autrement, c'est Trump qui viendra m'expliquer qu'il n'est pas content de moi. Hein. Donc, il prend les devants, parce qu'il sent la température, il est sur place et tout, et il prend les devants en disant, moi, je vais faire un truc, une espèce de chat où chacun peut raconter ses choses, mais je vais arrêter tous les filtrages et tout, et je ne vais pas me permettre ce que les gens de Twitter d'avant, c'est pas lui, ont fait, c'est-à-dire de dire au président des États-Unis, vous n'avez plus le droit de parler. C'est quand même... Ça a eu de la peine. Alors, en plus, il faut savoir que pour ceux qui soutenaient Trump à 110%, bon, ils ont hurlé tout de suite. Mais les gens qui étaient, disons, neutres ou à moitié sympathisants de Trump, ils ont dit c'est quand même un peu gros parce qu'on coupe le compte du président des États-Unis, etc. Ça s'est passé plus ou moins bien. Donc, M. Elon Musk, qui a du nez, du flair, s'est dit... Je vais adoucir ma position, je vire 2500 personnes, mais ça c'est un détail, hein, et je vais faire comprendre qu'on peut s'exprimer librement, et si jamais dans 2 ans, ou même peut-être avant, pour la campagne électorale, Donald Trump demandait à réouvrir un compte, peut-être je dirais oui. On n'est jamais si prudent dans le monde du business. Ça, c'est très intéressant. Alors, il n'est pas le seul. Alors, il faut savoir que les licenciements, ce n'est pas le seul endroit où il y en a, puisque le groupe Meta, qui est maintenant propriétaire de Facebook, est en train de faire la même chose, le même ménage, à une échelle bien plus importante, puisque là, on est à l'ordre de dizaines de milliers de salariés. Twitter, c'était 5 000 à peu près. Là, donc, la moitié s'en va. Donc, le groupe Meta, Facebook, fait la même chose, avec aussi les mêmes préoccupations, être moins visible, être moins pro-partisan, etc. Et la dernière illustration que je voulais donner de ce changement de... Non, ce n'est pas un changement de cap. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sentent le vent, qui disent « mon business va en souffrir ». Bon, je vais me repositionner un peu plus du côté des Républicains. Ce que je vous dis est démontré par... Alors c'est assez amusant parce qu'aux États-Unis, comme l'argent est au cœur de tout, il y a aussi des gens qui surveillent les circuits d'argent pour les élections. Et il y a en particulier, il est sorti un graphique qui est très très intéressant, comment on donnait, parce que vous pouvez faire des dons individuels, il y a des banques qui donnent, il y a des limites quand même qui sont fixées, mais des individus peuvent donner. Et il y a une statistique qui est sortie sur les dons dans les grandes entreprises, dans les cadres des grandes entreprises des États-Unis. Vous pouvez travailler dans une entreprise et dire, ouais, je mets mon nom et j'ai donné 1 000 $ pour la campagne de Trump ou pour la campagne de Biden. Bon. Et alors là, le graphique, c'est dommage que je ne puisse pas vous le dire, est très très spectaculaire, puisque les proportions de dons pour les démocrates atteignent 98% chez Netflix, 95% chez Apple, et tout est à cette image-là. Et il faut descendre tout en bas sur des sites d'informatique classique comme Oracle et tout, pour voir arriver un modeste 30% pour les républicains. Mais je peux vous dire que chez Netflix, il y a 2% des gens qui ont donné pour la campagne électorale, qui ont donné pour Trump. Hein. Donc on a aussi ça donne un éclairage sur la polarisation de l'opinion et sur le fait... Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, ils arrivent. Ils arrivent. Bon, ça, tout va bien. Non, non. Voilà, je voulais expliquer ça parce que on ne se rend pas compte du poids de l'argent et du poids des déterminations de ces grands groupes de manipulation de l'opinion, appelons-les comme ça, ou de contrôle de l'opinion, ou d'organisation du débat, hein, sur la vie politique des États-Unis. Voilà. On en reparlera peut-être plus savamment la semaine prochaine. Bien, on va passer une petite coupure musicale. Alors, c'est une chanson cubaine, pour nous mettre dans l'ambiance pour demain, vous en entendrez d'autres demain soir, qui est une chanson du principal chanteur cubain, enfin du plus connu des chanteurs cubains, et qui est un chanteur emblématique, disons, qui s'appelle Silvio Rodriguez, et c'est une chanson qui s'intitule Playa Girón. Mais on l'écoute et puis je vous expliquerai ce que c'est que Playa Girón.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Quirón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, mejor que, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta. Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Quirón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar?
Voilà, alors on reprend, oui. Donc c'était un petit morceau de Silvio Rodríguez qui s'appelle Playa Girón. Qu'est-ce que c'est que Playa Girón dans l'histoire cubaine et dans l'imaginaire collectif ou dans l'histoire collective? C'est l'endroit où, en 1961, alors je rappelle un peu l'histoire, en 1959, le 1er janvier 59, les castristes prennent le pouvoir, renversent le régime dictatorial de Batista, et tout de suite après, donc, les États-Unis, en s'appuyant sur les Cubains qui sont exilés, surtout qui veulent là, absolument pas que le régime castriste s'enracine, ce qu'il a réussi à faire, monte une opération, qui est une opération de débarquement militaire. Alors, c'est léger, c'est pas des divisions blindées entières, puisqu'ils pensent que le régime cubain est petit, il est faible, ils l'ont vu à l'œuvre, mais bon, ils ont raté leur coup. Mais donc, ils tentent cette opération sur un endroit qui s'appelle la plage, la Playa Girón. Bon, et ça rate, parce que les Cubains les ont vus venir, et les Cubains qui ont appris le maniement des armes pour faire la révolution s'en servent. Et donc, c'est le premier échec. Et donc, sur la Playa Girón, il y a un grand écriteau qu'on peut voir sur des vidéos. Premier échec de l'impérialisme, hein, Playa Girón. Alors, demain soir, vous entendrez une autre chanson, parce que celle-là parle de la ville de Playa Girón, mais pas tellement de l'événement. Une autre qui s'appelle Prélude à Playa Girón, que vous entendrez demain dans la bouche du même Silvio Rodríguez. Voilà.
Okay.
Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Roselyne, qui assistait à la conférence sur Cuba, m'a fait justement remarquer que la langue avait fourché. J'ai parlé de la BNP, qui, je crois, elle aussi a eu une amende, mais la plus grosse amende, c'est celle de la Société Générale. Les 8 milliards, c'est la Société Générale qui les a payés. Bien. Puisque j'en suis à parler des États-Unis, de Cuba et tout, je voulais saluer les propos d'une députée irlandaise qui s'appelle Claire Dudally, que vous connaissez peut-être pas, mais qui a fait une intervention devant le Parlement européen, disant qu'il y en a assez de critiquer des régimes qui soutiennent le terrorisme. Je rappelle, et vous en entendrez parler encore demain, que les États-Unis accusent Cuba de soutenir le terrorisme. Et elle a dit très clairement devant le Parlement européen, elle a dit, mais le plus grand soutien du terrorisme au monde, c'est les États-Unis, évidemment. Hein. Et elle a cité toute une série d'exemples d'interventions des États-Unis. Et elle a même cité très clairement le nom de Daesh. Daesh, c'est une création terroriste des États-Unis. Bon, alors je salue, parce que c'est pas si fréquent. Alors j'attends des députés français qui aient le courage de dire la même chose. Mais bravo à madame la députée irlandaise qui a eu le courage de dire ça devant un Parlement européen qui, par ailleurs, est assez anti-soviétique, anti-cubain et tout ce qu'il faut. Voilà. Bon. C'est dit. Et puis je voulais vous dire alors quelques petites choses sur... Ah oui, je fais un détour par Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Tel Aviv? Alors je ne suis rien allé faire, mais à Tel Aviv, il y a aussi des archéologues. Il y a aussi des archéologues alors qui avaient déjà découvert il y a quelques années une superbe mosaïque qui a fait le tour du monde maintenant, une superbe mosaïque avec des poissons, etc., mais qui datait donc de 200 ou 300 avant Jésus-Christ. Ce qu'ils ont découvert récemment, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. C'est un site donc, de fouilles avec des amphores, des ossements, etc. C'est à l'occasion d'un chantier. Et ils ont découvert un site qui date de l'époque de Ramsès II. Ramsès II, il a gouverné l'Égypte, c'était un grand pharaon, dans les années 1300 avant Jésus-Christ. Alors je dis 1300 avant Jésus-Christ pour bien expliquer que 1300 avant Jésus-Christ, c'est en gros 600 ans avant le royaume d'Israël. C'est-à-dire que à ce moment-là, cet endroit de la planète appartenait aux Égyptiens. Vous vous rendez compte ? Des Arabes à Tel Aviv. Horreur ! Bon, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la doctrine sioniste consiste à dire « on est chez nous et saute », parce que cet endroit du monde, Habib le sait, puisqu'il est syrien d'origine, a donné lieu à des affrontements importants, mais souvent entre, et je parle en particulier des affrontements à la fin de l'Empire ottoman, on s'est battu dans ces régions-là, en Syrie, au Liban, etc., parce que les Égyptiens commençaient à s'émanciper de la tutelle ottomane, et donc on avait des guerres entre Arabes et Turcs, hein, en gros. Ça se passait là, et là on ne parlait pas du tout de sionisme, de cet État, de cette terre qui est à nous et tout. Hein. Bon, voilà, donc je m'arrêtais avec un petit sourire de satisfaction sur cette découverte archéologique. En 1300, Ramsès II menait des combats, parce que là aussi, il voulait étendre l'Empire égyptien sur des terres arabes. Mais il était chez lui.
Même, je ne sais pas, c'est même marqué dans le Coran, je l'ai vu. Ça.
Mais oui. Mais donc,
c'est pour ça que, bon, c'est bizarre.
Oui, non, c'est même pas bizarre. Ça ne tient pas debout, mais c'est une construction. Debout,
ouais. Mais ils veulent vraiment situer Israël comme quoi. C'est pour le peuple élu de Dieu. Voilà,
c'est. Quand ils disent, voilà. Ah, hein, puis quand ils disent le slogan, c'est une terre sans peuple, il n'y avait personne. Mais il y a toujours eu du monde. C'est un lieu de civilisation très ancienne. C'est vrai, même pour la chrétienté, c'est un lieu très ancien aussi.
Ah, oui.
Hein. Donc, pensez à Paul de Tarse, dit Saint Paul, etc. Il y a plein d'autres. Bon, il y a en plus les croisés sont venus un peu faire leurs petites affaires, enfin, tout ça. Bon, on est sur des terres. Il y a les Phéniciens, bien avant même Ramsès II, il y a les Phéniciens. C'est donc une terre de longue civilisation, très ancienne, bien avant. Nous, ici, à notre endroit de l'Europe, on était des cutéreux, on était des retardataires. C'est là que ça se passait.
Bon. Mais en fait, c'était très étendu. Là, on nous représente la Palestine, enfin Israël actuellement. Quelques kilomètres carrés, quoi. 8000 ou je ne sais pas combien.
Bien sûr.
C'était beaucoup plus étendu. Ça allait jusqu'à la Perse.
Mais évidemment. Voilà. Donc tout ça a mérité d'être rappelé, puis c'était cocasse de voir cette découverte. Ben, Ramsès II, il était comme chez lui à Tel Aviv. Bon, ça ne s'appelait pas Tel Aviv, mais c'est bon à rappeler. Et puis, au titre des voyages qui vont avoir lieu, ah oui, parce que j'ai parlé un peu de la Chine, j'en ai parlé au début, mais parce que je pense consacrer l'émission mensuelle du mois de décembre à la Chine pour faire le bilan, avec le temps de faire, du 20e congrès, des avancées de la Chine sur tous les plans depuis le 19e congrès, donc depuis il y a 5 ans, parce que ça mérite en soi une émission, et à évoquer la Chine de temps en temps au passage dans toutes les émissions hebdomadaires, on n'en dit pas assez. Donc là, je l'annonce, hein, ça sera la prochaine émission donc, mensuelle du mois de décembre, elle sera consacrée à la Chine.
On en a pas parlé un petit peu de ce qui s'est passé en Iran. Voilà, c'est magnifique. Ça un peu éclaircir cette histoire.
Voilà. Alors pour l'Iran, il faut quand même que j'en parle.
Ouais.
Pour l'Iran, il se passe la chose suivante. Vous savez qu'il y a toujours une espèce de négociation qui n'avance pas trop parce que personne n'y croit vraiment, pour revenir sur un accord entre l'Iran pour lever les sanctions prises par les États-Unis, donc du temps de Obama, contre l'Iran. Bon, ça n'avance pas. Et maintenant, je pense que c'est fini, c'est terminé, puisque la position des Iraniens, c'est de dire « C'est vous, les États-Unis, qui êtes sortis de l'accord sans nous demander notre avis. Vous y revenez, on n'en parle plus. » Et les États-Unis ont dit « Ah non, on veut bien revenir dans un accord, mais un autre accord. Hein. » Et à partir de ce moment-là, les Iraniens ont dit « Mais attendez, vous voulez nous mener où ?» Hein. Et donc, effectivement, ça n'a pas avancé. Là où ça a avancé, et ça, c'est très, très grave.
C'est grave, ouais.
C'est grave. Ça a avancé, c'est-à-dire qu'il a été publié, il y a de ça quelques jours, un document donc, de l'armée des États-Unis, même du Pentagone en entier, qui s'appelle le Nuclear Defense, enfin, la stratégie nucléaire du pays. Dans cette stratégie nucléaire du pays, il est clairement écrit que les États-Unis se réservent le droit d'attaquer à l'arme nucléaire, y compris des États qui n'auraient pas l'arme nucléaire. Et ils ajoutent dans ce document, dans les commentaires, maintenant qu'on sait que l'Iran, parce que à force que l'Iran leur dise, mais on n'a pas l'arme nucléaire, on n'a pas fabriqué, vous êtes venus, enfin l'AIEA est venue autant de fois que nécessaire et tout, on n'en veut pas, mettez-vous bien ça dans la tête, c'est acté, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, maintenant, il y a des officiels qui écrivent en disant, bon, on sait que l'Iran n'a pas l'arme nucléaire et ne veut pas l'avoir. Bon, mais ça fait des années que l'Iran le dit, hein. Ça, il le dit. Non, mais là où ça devient grave, c'est que cette reconnaissance du fait que l'Iran n'a pas l'arme nucléaire, ça s'accompagne de la doctrine nucléaire qui vient de sortir, c'est tout frais. Alors, j'ai pas tout. C'est un document de 80 pages, donc j'ai pas tout lu. Hein, mais une position qui est très très claire, les États-Unis se réservent le droit de faire la première frappe, d'attaquer à l'arme nucléaire un ennemi qui n'a pas les armes nucléaires, mais qui les menace de façon conventionnelle. C'est-à-dire qu'il les menace avec des missiles, où il n'y aura pas d'armes nucléaires en tête, avec des drones, etc. C'est exactement ça qui vise pour l'Iran. L'Iran est visé. L'Iran a beaucoup progressé sur les missiles balistiques, sur les drones, etc. Et donc, il est écrit aujourd'hui que l'Iran n'a pas l'arme nucléaire. Ça, c'est les États-Unis qui l'écrivent. Bon, c'est clair. Hein, ça fait des années qu'ils le disent, mais ça y est, c'est acté. Mais par contre, il est écrit que, quoi qu'il n'ait pas l'arme nucléaire, il aura droit à une première frappe nucléaire. Bon. Ouais, c'est très important pour la suite des événements.
Ouais, ouais,
parce qu'on revient dans ce document sur la politique nucléaire des États-Unis, on revient aussi, et c'est pas trop dit, sur le fait qu'on ne prévoit pas d'attaquer ceux qui ont l'arme nucléaire avec l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'il a été reconnu, ce que je me... Je m'épuise à dire depuis 6 mois que le 3 janvier 2022, les 5 chefs d'État du Conseil de sécurité qui ont l'arme nucléaire ont signé un document commun qu'ils avaient donc préparé ensemble. Ils l'ont signé, donc Biden l'a signé, Poutine l'a signé, Xi Jinping l'a signé, Macron l'a signé et Boris Johnson l'a signé, disant que la guerre nucléaire est impossible parce que de toute façon tout le monde meurt. Elle est impraticable entre puissances nucléaires. Mais là, ce que vient de dire maintenant, en octobre, oui, la nouvelle doctrine, c'est que par contre, l'arme nucléaire, pour ceux qui ne l'ont pas, alors là, vous allez y avoir droit.
On peut frapper.
Vous allez y avoir droit, nous qui choisissons nos ennemis. Et donc l'Iran s'est sorti de sa position, on ne cherche plus d'accord, simplement maintenant vous êtes menacé d'une frappe nucléaire en première frappe. C'est-à-dire on considère, et ça me rappelle très, très clairement des propos du papa Bush en 1991, disant... On essaye d'expliquer à Saddam Hussein qu'il va se faire massacrer. Il ne comprend pas. On lui redit. À force, on s'impatiente. Ça, c'est ce que disait Bush, le père.
Le fils a accompli.
Et voilà. Et le fils a continué. Mais le père Bush a raisonné comme ça en disant « Oh, on leur a dit qu'il fallait négocier. » Mais ils disent « On n'a rien à négocier, ça va, etc. Bon. » Et donc, on avait décidé de les bombarder. On les bombarde. Je rappelle quand même que quand M. Bush senior disait ça, on essayait de négocier avec eux, il y avait stocké au Koweït tout ce qu'il fallait en armes, en bombardiers, en bombes, en tout ce qu'il faut en tir et en hommes pour attaquer l'Irak au moment où ils devaient le faire.
Donc, accusés comme quoi ils ont les armes de destruction massive.
C'était de pure hypocrisie. Et dernière info pour parler un petit peu de la Chine sans en parler, on annonce pour le mois qui vient, d'ici la fin de l'année dans tous les cas, une visite du président chinois à Riyad en Arabie Saoudite, visite officielle qui va montrer qu'il y a des alliances nouvelles qui se passent et que la tutelle des États-Unis sur l'Arabie Saoudite est en train de s'évaporer. Tutelle qui remonte à 1900.
L'Arabie Saoudite a demandé de s'allier avec le BRICS.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est ça qui va être discuté. Cette tutelle a commencé en 1943, quand Roosevelt est venu à ancrer son bateau de guerre dans la mer Rouge et a reçu donc le roi Saoud de l'époque pour nouer cette alliance qui ne s'était jamais démentie jusqu'à présent. Donc on a là un des éléments du bouleversement diplomatique et politique de la planète. Et puis on aura un autre élément dont on parlera la semaine prochaine, c'est que se tient la semaine prochaine le G20 à Bali, en Indonésie, et je me réjouis, Monsieur Poutine ne sera pas giflé par Madame Truss, puisqu'elle n'y sera pas. Voilà. Donc Monsieur Poutine pourra dire bonjour
à
son successeur. Voilà. Mais on aura d'autres façons de rire la semaine prochaine. Voilà. Merci Aïcha. Et donc à demain soir pour parler de Cuba et à la semaine prochaine pour parler du G20.
Et des élections américaines. Voilà.